Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est maintenant l'heure de l'émission Vive la sociale. Ce soir, nous vous proposons de faire un peu d'analyse politique à travers un entretien réalisé le 17 juin avec Jacques Weinstein. Si vous faites partie des auditeurs fidèles, vous avez déjà entendu Jacques dans cette émission, une première fois à l'occasion de son livre sur mai 68 à Lyon, et une deuxième fois dans un débat sur le dernier mouvement contre la réforme des retraites. Mais ce soir, c'est en tant que rédacteur de ce qu'il a appelé des relevés de notes en temps de crise sanitaire que nous l'avons sollicité. Ces relevés de notes sont consultables sur le blog de la revue Temps Critique à l'adresse blog.temps-critique.net, un blog où vous pouvez aussi trouver une chronique du mouvement des Gilets jaunes à Lyon. Ces relevés de notes sont une série de réflexions élaborées pendant le temps du confinement et poursuivies depuis, à partir d'informations glanées dans divers quotidiens ou en réponse à des contributions ou des articles qui ont circulé dans les milieux radicaux. Nous avons demandé à Jacques d'essayer de nous exposer ce qui lui paraissait significatif dans la situation de crise multiforme que nous traversons. Dans son exposé, Jacques recourt souvent à des concepts qui ont été élaborés au fil des années par le collectif qui publie la revue Temps Critique, dont il est l'un des piliers. Plusieurs de ces concepts ne se comprennent vraiment que dans le cadre de la construction analytique développée dans les pages de la revue, et c'est pourquoi nous avons demandé à Jacques, à la suite de cet entretien qui dure environ 50 minutes, de revenir notamment sur l'un d'entre eux, celui d'État réseau, conçu comme substitut contemporain à l'État-nation. Cette dernière partie d'entretien a été enregistrée après coup au téléphone, donc forcément avec une qualité de son moins bonne. Enfin, dans le dernier quart d'heure, Jacques reviendra sur l'histoire de la revue Temps Critique, née il y a 30 ans pour essayer de faire le bilan d'une longue période de lutte et qui s'est ensuite engagée avec persévérance dans une tentative d'analyse du capitalisme contemporain. Cette revue a maintenant 30 ans. Tout cela donnera peut-être envie aux auditeurs, en tout cas nous l'espérons, d'aller regarder de plus près en achetant la revue, disponible dans quelques librairies militantes, ou plus simplement en allant la regarder sur Internet à l'adresse temps-critique.free.fr.
Oui, donc je voulais parler d'un certain nombre de points qui sont liés à la situation de la crise sanitaire. Tout d'abord, un point économique classé comme tel, qui est celui de la dette, dont on nous parle beaucoup, dont à la fois les pouvoirs en place nous en parlent comme d'un poids insupportable, de quelque chose dont il faudrait absolument tenir compte, qui serait fondamental, et aussi parfois dans les milieux d'extrême gauche, on nous en parle comme étant un signe de dysfonctionnement du système, d'une preuve de sa crise, d'une preuve qu'on va dans le mur, etc. Alors, je ne dis pas que le problème de la dette soit absolument négligeable, mais je vais essayer de rapidement de m'inscrire en faux contre cette idée qui serait que tout à coup on peut négliger la dette par une sorte de magie. On nous a parlé de tour de magie monétaire, par exemple, pour expliquer le fait qu'on puisse sortir de l'argent Alors que, bon, en période normale, on nous dit qu'il y a, tous les pouvoirs nous disent qu'il n'y a jamais d'argent. Et tout à coup, on voit se déverser des masses d'argent. Donc évidemment, ressortent tous les trucs sur le monde réel, l'économie réelle, l'économie fictive, du capital fictif, etc. Parfois, il faut revenir à quelque chose de plus concret et de plus précis. Donc par rapport à ce qu'est de la dette, il y a eu plusieurs projets de présenter. Donc l'Europe a fait déjà un effort dans le sens de ce qu'on a appelé la mutualisation de la dette. C'est-à-dire que dans un premier temps, d'après les principes même de Maastricht et autres, il y avait un certain nombre de règles qui devaient être respectées et qui ont par exemple été imposées de force à la Grèce, comme quoi, et en partie à l'Italie, comme quoi les budgets devaient être nationaux, devaient être équilibrés, sinon les subventions qui pouvaient être accordées à ces pays-là étaient soumis à des règles assez drastiques qu'on a l'habitude d'employer pour les pays pauvres ou surendettés. Donc la mutualisation, l'idée de mutualisation des dettes ou à un moment de Corona Bond qui n'a pas été retenue a été présentée, c'est-à-dire que les pays de l'Union européenne ont accepté l'idée, sous l'égide de l'Allemagne et de la France, avec un revirement peut-être de Merkel à cette occasion, l'idée qu'il fallait faire une exception par rapport à la crise sanitaire qui était une crise exceptionnelle et que donc on pouvait mutualiser la dette au sens où les sommes qui seraient allouées aux différents pays ne seraient plus fonction de leur poids dans l'économie, ni fonction de leur niveau d'endettement, mais fonction de leurs besoins. Donc ça, c'était déjà un premier pas qui était une entorse aux règles de Maastricht. Et ça a été présenté. C'est en place d'être quelque chose de mis en place. Il n'empêche que c'est quelque chose qui continue dans le sens d'un alourdissement de la dette et de toujours les mêmes critiques par rapport à ce que serait cet alourdissement de la dette et donc avec l'idée qu'au final, il faudrait régler cette dette. Or, des économistes récemment, la semaine dernière, très sérieux, dont un Gabriel Giraud qui est bien connu, on fait part d'une autre possibilité qui paraît tout à fait cohérente, donc je la présente ici, dans ce projet donc présenté par ces chercheurs. Il s'agirait d'annuler uniquement les dettes rachetées par la Banque Centrale Européenne depuis 2015 et non celles détenues par les banques commerciales, les assurances ou les fonds de pension qui concernent des petits épargnants et qui donc, si on y touchait, amènerait à la fameuse euthanasie des rentiers dont parlait Keynes dans les années 30. Donc ça ne serait pas une solution. Non, là il s'agirait d'une prise en charge directement par la BCE, la Banque Centrale Européenne, dans la mesure où elle-même ne peut pas se ruiner parce que sa dette n'est exigible par personne. Les États endettés n'auraient donc ni à rembourser l'endettement de la dette, ce qui en général est ce qu'on demande, par exemple ce qui était demandé à la Grèce, c'est-à-dire que quand les États sont endettés, on ne leur demande pas de rembourser la dette, dans un premier temps on leur demande de rembourser simplement l'intérêt de la dette. S'ils ont à rembourser la dette, ils sont dans une situation différente, qui est ce qu'on appelle une situation de défaut de paiement. Mais normalement, on demande de rembourser l'intérêt. Mais là, déjà, on est dans une situation favorable de ce point de vue-là, parce que l'intérêt de la dette, aujourd'hui, il est égal à zéro. Donc on est déjà dans une situation qui est un petit peu différente, avec les taux d'intérêt qui sont très très bas. Donc les États endettés, aujourd'hui, n'auraient ni à rembourser l'intérêt de la dette, ni le principal, ce qu'on appelle le principal, puisque c'est la Banque centrale qui annulerait en quelque sorte cette dette. Donc, par exemple, les 2320 millions d'euros qui représentent la dette européenne, dont 457 euros pour la France, deviendraient tout à coup une manne disponible pour des investissements qui pourraient aller soit vers des investissements verts, soit vers des infrastructures publiques, soit vers le secteur du bâtiment, quand on pense que dans la plupart des pays européens, il y a un problème de logements sociaux qui est absolument incroyable et que les jeunes ont du mal à trouver des logements, que les plus démunis n'ont pas de logement, etc. Il y aurait tout un secteur qui pourrait s'ouvrir à ces investissements, et pas simplement dans un souci écologique, mais dans un souci social d'assurer ne serait-ce que la reproduction du parc social, etc. Donc il y a tout un dispositif qui pourrait se mettre en place avec ce plan-là.
Est-ce que tu as l'impression que ça en prend le chemin ?
Alors, l'avantage de ce plan, je réponds pas à la question tout de suite, l'avantage de ce plan, c'est qu'il aurait aucun effet inflationniste, puisqu'on nous parle sans arrêt du danger de l'inflation, alors qu'on est plutôt dans une période de déflation, on nous parle sans arrêt du risque de l'inflation qui resterait de surgir. Donc dans ce cas d'annulation de la dette, il n'y aurait aucun problème d'inflation, puisque en fait, il n'y aurait pas à injecter de l'argent, comme on entend parler sous les projets d'argent parapluie, où par exemple on distribuerait de l'argent, etc., et ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'inflation. Parce que on n'en a rien à faire de l'inflation nous, hein, mais ce qu'il y a, c'est que dans le langage des gens qui sont au pouvoir, ce risque-là, pour l'éviter, il est conduit à restreindre les politiques budgétaires et à procéder à des politiques d'austérité. C'est-à-dire que si on part de l'idée que la dette est un problème extrêmement important, qu'il ne faut pas la laisser porter par les générations futures, et que de toute façon il faudra payer, forcément c'est maintenant, et forcément la plus grande pente, c'est d'instaurer une politique d'austérité, même si elle est contradictoire avec une relance de la consommation par la demande et tout, c'est ça qui va être prioritaire. Donc l'avantage de ce projet-là, il serait de ne pas oblitérer la possibilité d'une politique ouverte vers autre chose, d'une sorte d'après le coronavirus qui serait différent de l'avant. Malheureusement, comme dit Nicole, enfin que j'ai coupé, c'est pas la voie la plus sûre et surtout la plus immédiate, parce que il faudrait qu'il y ait une sorte d'électrochoc tout de suite, et que pour le moment on est plutôt sur le pas à pas, c'est-à-dire que Merkel a pris le risque, par exemple en Allemagne, de contrecarrer la cour de Karlsruhe sur les manquements à la politique commune, aux règles de la politique commune. Ça paraît difficile de passer à un palier supérieur immédiatement, même si c'est ce palier supérieur qui permettrait de faire ce choc, puisque là, il y aurait besoin d'un choc qui renverserait en quelque sorte le paradigme lié à la croissance habituelle. Bon. Pour en terminer sur la dette, peut-être, sur les autres possibilités. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, les dettes ont pu être énormes et que ça n'a jamais été un problème. Comme on l'a vu dans différents relevés que Temps Critique fait sur son blog actuellement, la dette de l'Allemagne de l'après-guerre a été supprimée. Le Japon... La France actuellement va atteindre, avec les nouvelles mesures, une dette de 120%. Le Japon est depuis 10 ans sur une dette de 220%. Ça ne l'empêche pas d'avoir une activité dans une situation économique de type déflationniste, c'est-à-dire de faible croissance, mais ça ne l'empêche pas de fonctionner. Donc d'une manière générale, quels que soient les projets de la dette, ce qui sera choisi, et il risque d'être choisi des choses plus douces que des choses plus abruptes, la plupart du temps, quand on nous parle de la dette, c'est pour nous enfumer. C'est parce que les gens, on s'adresse à des gens qui ne maîtrisent pas du tout cette question-là et que là-dessus se fait tout un battage qui est non seulement très mauvais du point de vue de l'opinion publique qui enregistre ça et qui donc court vers une épargne de précaution plutôt que vers la reprise de la consommation, mais surtout est très mauvaise pour les anticipations des entreprises qui, face à ce discours, enregistrent ce discours et l'enregistrent comme une méfiance par rapport à l'avenir proche et donc aux possibilités d'investissement. Donc en fait, le discours contre la dette renforce renforce l'aspect déflationniste et de crise de l'ensemble du système, alors que secondariser la dette permettrait d'ouvrir d'un point de vue capitaliste. Je ne me situe pas dans une optique communiste ici. D'un point de vue capitaliste, c'est un discours qui est inadéquat.
Et qu'est-ce que tu penses de l'annonce qui a été faite là, en fait, aujourd'hui, sur le fait que la part de l'endettement qui est liée au chômage partiel vient d'être balancée sur la caisse de la sécurité sociale? Il a été mis sur le compte de la dette, comptabilisé comme la dette de la sécurité sociale. C'est quand même des enjeux.
Oui, mais ça, c'est une tentative de... je vais me faire le défenseur du gouvernement. C'est-à-dire que on a reproché au gouvernement de Macron et à la CFDT de tout vouloir basculer en dehors des régimes sociaux, de la sécurité sociale, etc., pour faire que tout soit payé en dehors du système habituel de l'État-providence, qui était le système de répartition entre cotisation, rétribution, cotisation, prestation. Donc Macron et la CFDT ont été accusés de vouloir mutualiser à l'ensemble de la population, y compris, non salariés, dans la mesure où la crise du travail fait, et puis la sociologie même de la population fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas par rapport à de gens qui travaillent, entre les jeunes, les retraités, les gens qui n'ont pas accès au travail, etc., de faire passer des droits sociaux de mutualisation, comme la CMU par exemple dans la santé, qui soient détachés du système liés à la société du travail. Donc on les a accusés de ça. Bon, passons. Je pense que la CFDT est beaucoup plus clairvoyante du point de vue capitaliste, mais c'est le seul qui compte si on ne fait pas la révolution, est beaucoup plus clairvoyante sur la situation qui est que effectivement c'est un quand vous réduisez le travail, il faut bien que les gens qui soient imposés ou les gens qui bénéficient des choses le soient en dehors du travail. c'est-à-dire qu'on taxe le patrimoine, qu'on taxe les commerçants, qu'on taxe les professions libérales, qu'on taxe des gens qui étaient en dehors de le mécanisme de l'État-providence, etc. Et qu'on élargisse donc à tous les bénéfices de ce qu'était la société du salariat quand le salariat se délite. Et alors maintenant, on va reprocher au gouvernement de réintégrer le paiement du chômage partiel dans le système de cotisation prestations. Alors évidemment, du point de vue du gouvernement, on peut juger ça comme un bout tactique, mais quand on est dans l'opposition et qu'on cherche à avoir une argumentation, il faut rester cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois reprocher à un gouvernement de sortir du système d'État-providence et de vouloir que et de lui reprocher aussi de vouloir que dans un cas de crise particulière, il cherche à limiter les dégâts en reportant sur les partenaires sociaux la prise en charge de la crise générale. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Ce qui est déterminant là-dedans pour nous, c'est pas de choisir puisqu'on n'est pas au pouvoir. C'est de voir que cette solution n'en est pas une. Là, l'exécutif, il entend faire passer la dette Covid dans la dette sociale. Cela revient à augmenter des prélèvements sociaux qui sont payés par les salariés et les retraités, puisqu'une fraction de la CSG y sera consacrée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, CRDS, sera prolongée de 9 ans. Le point d'attaque qu'il y a là-dessus, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que ce gouvernement se met en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'il nous dit sur le fait qu'on a déjà les prélèvements obligatoires les plus élevés et qu'il en rajoute sur les prélèvements obligatoires s'il passe à cette solution-là. C'est-à-dire l'acculer dans ses contradictions. Il faut l'acculer dans ses contradictions, mais ne pas nous noyer, nous, dans nos propres contradictions où on lui demanderait tout et son contraire. Je pense que l'une des graves crises de la gauche, de la pensée critique de gauche, c'est qu'elle n'a aucune cohérence et qu'elle n'est donc pas fiable. Elle ne peut pas être écoutée, elle n'est pas audible parce que on raconte tout et son contraire. On n'a pas de ligne fixe et on dit que le gouvernement n'a pas de ligne fixe, mais nous non plus. Donc finalement, personne ne nous croit et on peut faire ça sur tout un tas de développements quand par exemple on dit que les enseignants sont l'exemple même du double langage. La gauche, par principe, y compris l'extrême gauche et l'ultra-gauche, sont des spécialistes du double langage et le pouvoir aussi. Il faut quitter ce double langage pour arriver à poser les choses et à les analyser en tant que tels. Bon. Donc reconnaître, par exemple, que le gouvernement fait des efforts dans un certain sens, mais qu'il est pris dans de telles contradictions qu'il va contredire les efforts qui sont faits dans un sens en allant dans un autre. C'est tout ce qu'on a relevé dans le relevé numéro 9, par exemple, qui vient de paraître cette nuit. C'est-à-dire que le gouvernement a à faire tout un tas d'arbitrages, arbitrage salaire-emploi, arbitrage insider-outsider, comme l'a posé Macron. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'absence de politique autre proposée qui fait que ces termes-là n'apportent aucune solution. Qu'on choisisse un côté, il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas de solution dans la même dans la même problématique, mais non, dans le même paradigme en quelque sorte. Et ce paradigme, il peut être changé même à l'intérieur du capitalisme. Il y a des marges, à mon avis, il y a des marges même internes au capitalisme. Thank you.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez la suite de l'entretien avec Jacques Weinstein, auteur des relevés de notes en temps de crise sanitaire que l'on peut consulter à l'adresse blog.temps-critique.net. Est-ce qu'on peut en revenir à la question de l'intervention de l'État dans l'économie? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a effectivement un changement de nature là qui se joue actuellement? Et comment, à temps critique, vous l'analysez? Parce que vous avez une vision, enfin, un discours assez élaboré sur le changement de nature de l'État depuis pas mal de temps.
Ben, disons que là, actuellement, ce qui se passe, c'est ce qui apparaît finalement clairement aujourd'hui, et contrairement aux différents discours marxistes, nous, ce qu'on défend, c'est que le capital, bon, en tant que rapport social, donc le capital, c'est pas une chose, hein, c'est des forces. Mais bon, si on admet que c'est des forces, on va parler en termes de capital. Donc c'est pas un capital automate, c'est pas une machine, etc. C'est des forces, mais pour simplifier, on va l'appeler capital. Le capital, il a pas de forme propre. C'est-à-dire qu'il a toujours évolué dans des formes diverses, qui ont pu être financières, commerciales, industrielles. L'État a toujours été présent à certains moments dans la distribution de ses forces et dans la participation à sa dynamique, et il a eu des rôles très différents suivant les époques, mais il a toujours été à l'initiative. Par exemple, c'est lui qui a créé le marché. Le marché, c'est pas quelque chose qui s'est créé librement. Polanyi l'a montré, Karl Polanyi. Le marché est une création de l'État. Donc déjà l'opposition entre économie de marché et État, etc. Donc il y a eu des périodes où on a eu l'impression qu'il n'y avait que l'État, par exemple les Trente Glorieuses, où le marché paraissait disparaître. Et puis à partir des années 80, dans les restructurations et la période dite néolibérale, on a eu l'impression que le marché existait, que l'État n'existait plus. Mais tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est que des petites périodes, des petites parenthèses. D'une manière générale, il y a des articulations qui changent, qui se modifient, il y a une fluidité. Ce qui fait la force du capital, contrairement à tous les autres systèmes qui ont existé, et ce qui fait qu'on ne peut même pas l'appeler comme en tant que système, c'est qu'il est toujours en fonction dynamique. C'est-à-dire que même s'il a des éléments stabilisateurs et des éléments de régulation, sa force, c'est la dynamique, et c'est d'ailleurs à cette dynamique que les individus adhèrent. Bon. À l'époque contemporaine, bon, et donc il est capable d'épouser n'importe quelle forme. Donc que cette forme soit plus ou moins étatique ou pas, le problème aujourd'hui, il n'est pas tellement celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si un État nationalisait, ça ne serait pas une nationalisation de dernier recours, comme type Mitterrand en 81. C'est-à-dire qu'en 81, la nationalisation, elle était idéologique. Elle n'avait aucun intérêt économique. La nationalisation économique, le dernier intérêt de la nationalisation économique, elle était en 45, quand on a nationalisé les banques de dépôt. Là, il y avait une logique économique qui était de mettre à disposition de l'économie l'argent qui, en 36, avait fait chuter le Front populaire avec ce qu'on avait appelé le mur d'argent. Mais aujourd'hui, une nationalisation, le capital n'en a rien à foutre, ni des nationalisations, ni des privatisations. Il est capable de vivre de l'un et de l'autre, de la même façon qu'il a supprimé les frontières du privé et du public. De la même façon que la société civile n'existe plus, qu'il n'y a pas d'opposition entre État et société civile, que justement c'est ça la société capitalisée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interaction de différents réseaux, parce que ce qui faisait la structure de l'ancien État, la plupart du temps basé sur l'État-nation, c'est-à-dire un certain nombre de médiations fixes, qui étaient les institutions avec des lois très peu nombreuses, impliquées par tout le monde, des médiations historiques comme les syndicats, acceptées par tout le monde, etc. Toutes ces choses-là sont, d'après le langage qu'emploie Jacques Guigou, ces choses-là ont été résorbées, et qu'à la place, il y a tout un ensemble de coordination et d'interaction qui se font par des réseaux et qui organisent la reproduction des rapports sociaux à partir de ces réseaux. Prenons l'exemple de la crise sanitaire et le rôle des soignants. C'est-à-dire les soignants sont devenus à eux seuls un réseau qui a gouverné l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont les soignants qui ont imposé le confinement. Ce n'est pas l'État. Surtout en France, il y a des pays où on a imposé de façon autoritaire, comme en Chine ou en Corée, le confinement. En France, le confinement a été imposé par les soignants qui sont tout à coup devenus une entité. Ça n'existe pas, les soignants, ça n'a jamais existé. Ça vient d'apparaître. C'est un produit de la crise sanitaire. C'est ce qu'on appelle, nous, une intermédiation par rapport aux médiations. C'est-à-dire que cette intermédiation peut disparaître du jour au lendemain ou ressurgir. Elle n'a rien d'institutionnel. Elle n'est pas légale. Il n'empêche, elle joue son rôle. À un autre niveau, Raoult a été une intermédiation qui, tout à coup, a proliféré, a pris une dimension telle que toute la France et même le monde entier s'est posé la question de Raoult. Ce qui est impensable dans un état normal normalement constitué où il y a des décisions politiques et où la médecine est tenue en laisse par le pouvoir politique. Là non, visiblement le pouvoir politique ne tenait rien en laisse. C'est ça aussi ce qui fait le changement dans l'état, c'est-à-dire que l'état il apparaît de plus en plus, mais c'est pas parce qu'il apparaît en tant que puissance supérieure. C'est-à-dire que si on prend la France, l'Espagne, l'Italie, c'est sûrement trois des États les plus faibles de l'Europe, et c'est les États les plus répressifs, je mets entre parenthèses les pays de l'Est, c'est les États les plus répressifs de tous les États européens occidentaux, et c'est eux qui ont pris les mesures les plus extrêmes finalement, et qui ont été les plus, à la fois les plus démunis, les plus touchés, et qui ont pris les mesures les plus extrêmes, parce que finalement, la reformation de l'État-réseau, au niveau de la nation, je ne parle pas de comment ça s'organise dans ce qu'on appelle le niveau 1, c'est un niveau de l'hypercapitalisme, c'est-à-dire là où se gèrent les choses dans les G8, G20 et avec les multinationales, etc. Mais au niveau national de la reproduction des rapports sociaux, c'est justement dans ces États les plus faibles où la gestion se fait par les intermédiaires, qu'on s'aperçoit qu'il y a une autonomisation des fonctions régaliennes. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui a toujours été un pays ultra-autoritaire, y compris après le nazisme, quand on pense, on en a parlé dans un des relevés, que dans les années 70, en Allemagne, le simple fait d'être de gauche, au sens où on l'entend en Allemagne, c'était être viré de la fonction publique. On s'aperçoit qu'un État aujourd'hui comme l'Allemagne est un État hyper libéral, parce que c'est un État fort par rapport à la France, où il n'y a jamais eu véritablement de répression à la fonction publique, sauf dans des phases extrêmement réduites, et où on a l'impression de vivre dans une sorte de dictature, parce que le pouvoir ne tient plus rien, et où il procède par état d'exception et par ordonnance pour faire appliquer sa politique. Donc on a l'impression...
Quand tu dis l'Allemagne est un état fort, En fait, tu veux dire que l'Allemagne est une économie forte?
Non, est un État fort. Un État fort dans la mesure où il est capable de faire accepter par sa population toutes les mesures qui sont prises. Et c'est une puissance économique forte. Mais la France reste une puissance économique forte, mais son État est faible. Donc en fait, justice et police s'autonomisent par rapport à la faiblesse de l'État et ils prennent le peu de force qui reste dans l'État-nation. Parce que l'État réseau, lui, reste fort, mais le peu de force qui reste dans l'État-nation est à la limite porté caricaturalement par les forces qui s'autonomisent. C'est-à-dire que la police, la justice, l'école sont les garants de la République, ce qui n'est plus le pouvoir politique. Le pouvoir politique n'est plus le garant.
Et qu'est-ce que c'est que tu fais qu'un État est fort ou faible alors dans cette histoire ?
Eh bien, qu'il y ait une adéquation, en quelque sorte, entre son accrochage au niveau 1 de l'hypercapitalisme et ses propres valeurs de niveau 2. C'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, en tant que pays avec peu de lutte sociale, une cogestion sociale, une puissance des syndicats intégrée, un sens du travail, mais travail pour le travail et non pas de la profession ou du métier, est bien accroché au cycle mondial et est capable de s'adapter à lui, alors que des pays comme la France et l'Italie sont moins capables de s'adapter au cycle mondial parce que elles transportent des valeurs qui lui sont contradictoires. Par exemple, la laïcité en France est un obstacle essentiel à son accrochage à la dynamique mondiale.
En quoi ?
Eh bien, dans le fait que les immigrés ne sont pas acceptés comme dans les autres pays, qu'il faut adhérer aux valeurs de la République pour être intégré, qu'en France, on ne veut que des vrais boulots et pas de faux boulots, etc., etc., qui sont tous des obstacles à la dynamique du capital.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez la suite de l'entretien avec Jacques Panstein, auteur des relevés de notes en temps de crise sanitaire que l'on peut consulter à l'adresse blog.temps-critique.net.
Dans ce schéma, j'avais... Alors qu'en Allemagne, comme aux États-Unis, ils veulent du boulot et non pas des vrais boulots. C'est pour ça qu'ils ont accepté les lois Schröder qui ont créé les petits boulots en Allemagne qui n'existaient pas. Alors qu'en France, on est attaché à la profession. Donc c'est un stade, toujours se rappeler de ce que disait Marx, le modèle, il reste quand même quelques trucs chez lui dont on peut tirer quelque chose, le modèle c'est les États-Unis. Au modèle il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail aux États-Unis, il n'y a que du boulot. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi, donc c'est des vrais prolétaires. Bon, le problème, c'est qu'on a vu les vrais prolétaires. Bon, on a vu ce qu'ils ont donné. Mais c'est des vrais prolétaires, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre n'importe quel boulot, ils sont virés, ils en prennent un autre, etc. C'est ça le stade ultime du capitalisme qui prépare le communisme, en quelque sorte. Bon. En France, on est loin de ce stade-là. C'est ce qu'on appelle en France, les économistes libéraux, c'est ce qu'ils appellent la préférence pour le chômage. En France, un ouvrier préfère le chômage à un faux boulot. Tout ça, c'est des obstacles. Donc la France n'est pas raccord à ça. L'Italie n'est pas non plus raccord parce que toute une partie de l'Italie n'est pas industrieuse. Donc elle est coupée en deux entre la partie industrieuse du nord et la partie non industrieuse, etc. Donc que ça fait des accrochages différents à l'ensemble mondial. Et ceux qui s'accrochent le mieux et avec le plus d'indépendance, parce qu'on peut s'y raccrocher comme un pays sous-développé, comme la Hongrie ou la Pologne par exemple, mais on peut s'y raccrocher en tant que pays dominant, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, parce qu'il y a une concordance, enfin les planètes sont alignées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a réglé le gros des problèmes sociaux et on a une sorte de consensus qui est ouverte aux valeurs de la postmodernité.
Mais donc, pour en revenir à la situation actuelle, donc dans cette analyse-là, est-ce que vous pensez qu'il y a, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre d'une transformation importante, ou, au fond, cette période dite de crise, crise du coronavirus, crise économique qui suit, elle induit des changements, ou elle va en induire?
Tel que ça en prend le chemin, fondamentalement non. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de choc. Il y avait pratiquement 2 mois pour créer un choc, mais il aurait fallu avoir une vision qui n'était pas une vision à court terme. Il aurait fallu que le G7, que le G20 se réunissent, et pas sous les ordres de Trump, de façon à organiser un changement complet, alors qu'on a laissé se développer les antagonismes Chine, Russie, Europe à souhait, et que certains de ces protagonistes avaient intérêt à ce que ça se développe aussi. La Russie avait ses intérêts, la Chine a ses intérêts, les États-Unis de Trump ont leur intérêt. Tout ça s'est développé qui rend impossible une solution qui peut être qu'au niveau de l'Europe, mais pour l'Europe, mais au niveau mondial, c'est trop tard. Donc il n'y aura pas de choc qui réorienterait dans un sens de keynésianisme mondial orienté vers des nouvelles énergies, vers... une croissance qui soit moins quantitative, etc. Aucune chance que ça se fasse. Par contre, un élément important qui est pratiquement inscrit déjà dans les faits, c'est une intervention de l'État à nouveau extrêmement plus importante à partir de 2 pôles, c'est-à-dire à partir du pôle souverainiste, c'est-à-dire essentiellement Chine, Russie, États-Unis, Brésil, plus des pays style la Pologne et la Hongrie, etc. Où l'État intervient de façon souverainiste, mais aussi en tant qu'État stratège. C'est-à-dire finalement État commercial et puissance politique, mais aussi puissance commerciale qui va chercher la non-coopération par rapport à toute la période précédente qui a été une période de coopération. Parce que ça a été très net, tout ce qui s'est passé avec la Chine et qui est remis en cause aujourd'hui, c'est que finalement il y a eu pendant 20 ans pratiquement, et contrairement à la période des années 70, une période de coopération internationale. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé dans les années 70 avec le Japon, c'était que le Japon était le nouveau danger, le nouveau péril jaune, et qui apparaissait bien même dans les déclarations de Cresson sur les fourmis japonaises, etc., et sur le fait qu'on bloquait tout transfert de technologie vers le Japon. Cette politique a été complètement laissée de côté quand la Chine a été intégrée à l'OMC par les États-Unis et que tout à coup la Chine a fait partie du concert mondial des nations, où il y a eu une période de collaboration internationale et de transfert de technologies jamais connue dans le monde depuis que le monde existe, avec donc un ensemble tiré vers la paix générale, même si des conflits marginaux existaient effectivement. Cette période semble s'être clos avec le coronavirus, ou un peu avant le coronavirus, elle semble s'être clos, et on se retrouve donc avec des États qui présentent la compétition, y compris la compétition non pas économique mais entre puissances militaires, comme une possibilité. Il n'empêche que cette situation-là entraîne une intervention importante des États dans la vie économique, y compris aux États-Unis, pays libéral par exemple, où Trump a pris des mesures industrialistes, finalement, qui ne sont pas du tout dans l'habitude des États-Unis, pour essayer de sauver l'industrie américaine, de ressusciter certains pans de l'industrie minière, pétrolière, et puis de recréer quelque chose à partir du gaz de schiste. Et tout ça vient en fait se rejoindre un petit peu, même si c'est pas sur les mêmes bases, l'intervention plus importante qu'il y a dans les pays européens, qui reconnaissent qu'ils sont allés trop loin dans l'optique de l'économie de marché, et que finalement il faut reprendre les rênes. Ça. Donc il y a une certaine convergence, même si ce n'est pas sur les mêmes bases, il y a une certaine convergence pour l'intervention des États. Mais en fait, ce n'est pas étonnant, parce que c'est le contraire qui était une aberration. C'est-à-dire que la période du libéralisme absolu, pour nous, elle est une aberration. Non pas parce que l'économie réelle se détacherait de l'économie financière ou de l'économie dite irréelle, mais c'est une aberration parce qu'en fait il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette différence entre public, privé, etc., elle est remise en question. C'est-à-dire que l'État, dans chaque pays, intervient de plus en plus. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de... Alors qu'on dit que c'est le libre marché, il y a de plus en plus de régulation. C'est-à-dire qu'on croit que la dérégulation n'a pas... Ce qu'on a appelé la globalisation et la dérégulation des années 80, on a fait comme si cette dérégulation n'avait pas été suivie d'une régulation. Simplement, la régulation, elle ne s'est pas faite au même niveau. Il y a eu des régulations au niveau national pour re-régulation au niveau international, ce qu'on appelle le niveau 1. Mais cette régularisation, elle existe. C'est-à-dire que l'économie n'a jamais été autant encadrée qu'aujourd'hui. On l'a dit souvent dans Temps Critique, aujourd'hui, sauf dans les PME, il n'y a pratiquement plus un prix qui soit déterminé par le marché. Soit les prix sont déterminés par l'État, soit les prix sont déterminés au niveau mondial par le niveau 1 des États, des multinationales, etc., par exemple le prix des matières premières, soit ils sont déterminés par les oligopoles qui déterminent le prix d'une voiture. Aujourd'hui, une voiture, quelle qu'elle soit, la première gamme, elle est à 9 999 €, la deuxième gamme, elle est, et aucune marque n'impose un prix différent que l'autre marque. Toute la différence se fait en dehors du prix et non pas sur le prix. Donc il n'y a jamais une économie aussi régulée.
Tu veux dire par exemple que les allées, les hauts et les bas des cours de bourse n'influent pas du tout là-dessus?
Non, absolument pas. Ils influent sur d'autres choses, ils influent sur les perspectives de placement, sur les entreprises qui sont cibles, sur il donne une idée. Par exemple, là, dans le dernier relevé, on citait un exemple, bon, justement, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de capital fictif, que le capital fictif est spéculatif. De toute façon, les bourses ne fonctionnent pas sur la même rationalité. C'est-à-dire que là, je ne vais pas faire un développement sur l'économie financière, mais il y a une rationalité financière qui est différente de la rationalité économique, et donc on peut avoir des mouvements boursiers qui sont particulièrement rationnels par rapport au fonctionnement du marché boursier, et qui apparaissent irrationnels en dehors du fonctionnement boursier. Donc c'est déjà un truc. Mais si on relie au phénomène, par exemple, de la valorisation des start-up et de comment ça fonctionne au niveau du capital fictif, etc. J'avais pris un exemple, par exemple, donc je le dis textuellement d'après un passage que j'ai écrit. Pour ceux qui pensent encore que le capital fictif n'est que spéculation et n'aurait rien à voir avec l'économie réelle, l'exemple de Nikola Corporation leur ouvrira peut-être les yeux. En effet, cette start-up américaine vient de se manifester sur le devant de la scène économique. Spécialisée dans le secteur du camion électrique à hydrogène, sa capitalisation boursière a bondi, atteignant les 34 milliards de dollars, soit autant que la valeur combinée de PSA, Fiat Chrysler Automobile et Renault. Une valorisation d'autant plus sidérante que Nikola n'a jamais vendu ni même vraiment produit un seul véhicule, qu'il prévoit un chiffre d'affaires nul pour 2020 et que sa propre usine d'assemblage en Arizona ne sera pas opérationnelle avant 2027. Information tirée du Monde du 15 juin. Bon, cet exemple est un exemple même d'une rationalité d'un autre niveau, mais qui n'est pas moins rationnelle que la rationalité de l'économie dite réelle. C'est-à-dire qu'il y a des projections sur des nouvelles innovations, etc. C'est-à-dire que c'est une preuve de la dynamique du système. Après, on peut en tirer des conclusions extrêmement diverses, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont soit ignorants de la chose, soit fixés sur la crise finale du capitalisme, en déclarent que ça montre bien qu'on va dans le mur et que de toute façon ça tient pas la route, que la conclusion comme quoi le système ne fonctionne que comme ça, c'est-à-dire par anticipation et par rapport toujours à des perspectives d'innovation qui sont valorisées avant même, et donc où il faut que ces innovations soient en quelque sorte capitalisées avant même qu'il y ait possibilité qu'elles capitalisent. Donc il faut trouver des sources de financement qui sont considérés comme du capital fictif parce qu'ils n'existent pas vraiment, parce qu'ils ne sont que des anticipations de ce que gagneront ces entreprises. Il est bien évident que toutes ces entreprises ne seront pas productives, c'est-à-dire que ne seront pas, sauf que d'une manière globale, on peut dire que la dynamique du capital fonctionne là-dessus. Mais comme dans le cadre de l'Empire romain, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas il n'y aura pas d'explosion ou d'implosion. Simplement, c'est pas un signe de crise. C'est un signe de fonctionnement normal. Bon. Ce qui est un signe de crise, c'est le fait qu'un événement comme le corona soit déstabilisateur. Mais si on prend le corona, c'est déstabilisateur. Mais franchement, objectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Quel système aurait résisté à ça? Tout a fonctionné. Personne ne s'est révolté. Tout le monde a mangé.
Plus ou moins.
Quelle capacité de résistance? de résilience, disent-ils. Et ça, justement, c'est parce que l'imbrication entre les réseaux de fonctionnement qui sont la logistique, finalement, des rapports socio-capitalistes, plus l'État, les États, etc., il y a suffisamment de ramifications, de communications, de connexions pour que tout ça fonctionne. Et en fait, si on regarde, ce qui est essentiel dans ce truc-là, c'est pas qu'on produise des automobiles ou des merdes comme ça. Personne n'en a rien à foutre, finalement. Ce qui aurait été la crise du capitalisme, ça aurait été que les connexions ne fonctionnent pas.
Là, tu ne parles pas en termes de connexion numérique, tu parles.
Toutes les connexions. C'est-à-dire que la fluidité, la flexibilité, les communications s'arrêtent. Et tout ça a fonctionné. Parce que tout ça nécessite très peu de gens. Pour que l'électricité circule, il faut 2 personnes. Pour que... etc., etc. Et tout ça a fonctionné. Mais ça n'aurait pas fonctionné. Là, on serait plus dans le même système. On serait dans une autre société. C'est-à-dire que là, il y aurait eu des guerres civiles, il y aurait eu...
Tu ne peux pas non plus exclure la possibilité de bugs gigantesques.
Oui, mais sauf que ça ne s'est pas passé.
Ouais.
Et ça veut dire que donc tout est quand même sous contrôle. Pour le meilleur et pour le pire, parce que moi je le dis toujours, je suis contre la barbarie. Et donc, je n'ai aucun intérêt à ce que se développent des phénomènes barbares qui n'auraient pas été précédés par des mouvements qui permettraient de saisir les opportunités.
Les opportunités d'émancipation.
Hein. Voilà.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez la suite de l'entretien avec Jacques Benstein, qui est l'auteur des relevés de notes en temps de crise sanitaire que l'on peut lire à l'adresse internet blog.temscritique.net. Est-ce que je peux te demander simplement d'en dire un petit peu plus sur votre point de vue sur ce que vous avez appelé le passage de l'État-nation à l'État réseau, parce que finalement, dans ce que tu nous expliques de la situation actuelle, tu fais appel à ces concepts sans qu'on les comprenne forcément très bien.
Oui, c'est un point qui nous est souvent reproché, à mon avis, non pas parce qu'on explique forcément mal, mais parce qu'il passe mal, peut-être pour des raisons idéologiques ou politiques, mais je pense que peut-être aussi le résultat d'une mauvaise explication, du fait que c'était un truc, un peu une théorisation en travail elle-même, en process, comme on dit, pour faire bien. Donc elle n'est pas au point, c'est quelque chose qu'on a développé, que surtout Jacques Guigou a développé à partir de Montpellier. C'est pas quelque chose qui est défini de façon formelle comme étant notre point de vue sur la question. C'est des essais de formalisation de cette question, et on est obligé de reprendre ça d'ailleurs pour le numéro 20 de l'automne, là, parce que justement, il y a pas mal de gens qui nous posent cette question. Donc en fait, déjà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que cette question de l'État réseau et de l'État nation, on l'a vu en deux temps. D'abord, dans la crise de l'État nation. C'est-à-dire que cette crise de l'intention, on la développe dès 90, hein, l'idée de... Et Jacques Guigou en voit la manifestation, surtout dans ce qu'il appelle la résorption des institutions. C'est-à-dire que l'État-nation, surtout la française, parce que c'est très clair dans son organisation, il est défini par un certain nombre d'institutions fondamentales qui assurent un petit peu le fonctionnement et la mise en pratique des valeurs de la République. Donc que ça soit par la justice, par l'école, avec toutes les spécificités, l'école française soi-disant démocratique et de masse, etc. Le tremplin social par l'école, l'universalisme du droit et donc les phénomènes de naturalisation et d'intégration des populations étrangères qui se fait de façon très différente à la fois de ce qui se fait en Allemagne avec l'autre théorie de l'État-nation complètement opposée à la théorie française, mais aussi complètement différent de l'optique américaine, multiculturaliste, etc. Et tout ça, c'est un fonctionnement de l'État-nation qui se grippe complètement à partir des années 80, où finalement, ces institutions ne remplissent plus leur rôle. On pourrait prendre l'école, qui devient un lieu qui ne remplit plus sa fonction, en quelque sorte, éducative, mais qui est un endroit où on passe pour un parcours de formation générale qui s'allonge de plus en plus jusqu'à la formation continue pour adultes et qui devient de plus en plus indistinct. Et ça se produit donc dans tous les secteurs. Par exemple, au niveau de la justice, c'est très net avec les nouveaux droits. C'était, on l'a dit X fois, les lois remplacent la loi, c'est-à-dire que ce qui faisait référence et qui devait être connu de tous devient, dans le cadre des mouvements de libération, d'émancipation, mais aussi de la juridiciation, des rapports sociaux, une justice qui n'est plus une justice avec un grand J, mais une justice qui donne de nouveaux droits ou qui transforme ses sanctions en faisant, soit sur le modèle américain, soit sur un modèle propre, une forme de contractualisation des peines, contractualisation des rapports entre la justice et les...
Oui, mais quelle est la différence avec l'État réseau dont tu parles ?
Justement, c'est que dans cette résorption de l'État-nation, l'État devient réseau parce qu'il remplace en quelque sorte, dans cette résorption des institutions, il ne reste pas sans rien. C'est-à-dire qu'il y a résorption des institutions, si tu veux, et puis suppression, il a tendance à squeezer les médiations traditionnelles, telles que par exemple la famille, les syndicats, etc., pour mettre en place tout un ensemble de systèmes par association, un ensemble d'intermédiaires, plus que de médiation. On en a des exemples dans la crise sanitaire, où en fait, ce sont pas du tout les institutions de l'État français qui ont pris des décisions, qui ont mis en place un certain nombre de choses, ce sont tout un ensemble d'intermédiations, que ça soit les soignants en général, que ça soit les comités d'experts, que ça soit les start-up proposant le stop Covid. Tout ça, c'est l'inverse de ce qui se passait dans l'État-nation, enfin l'inverse. C'est un passage d'une forme à une autre qui n'est pas sans contradiction, puisque il peut y avoir des formes d'État-nation qui persistent. Ce qu'il faut voir, c'est que ce passage à l'État-réseau, il se comprend aussi qu'à partir d'une articulation en plusieurs niveaux. Alors peut-être ça, on l'a pas assez dit, et en fait les gens ont pu l'intégrer par exemple dans la lecture de certains autres articles, et par exemple dans la révolution après la révolution du capital, ou dans certains numéros de temps critique, comme dans le 15 où c'est bien expliqué. Mais c'est compréhensible, cette histoire de passage à État-nation, à État-réseau, aussi dans le cadre de ce qu'on appelle l'articulation des niveaux au sein du capitalisme en général. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un certain moment, on a repris le schéma brodélien parce que ça nous permettait d'expliquer la situation du capital avant le capitalisme, dans sa vaste fresque de développement du capital. On y parle justement d'un capitalisme du sommet, de marge du capitalisme, etc. Donc on a repris ça de façon à comprendre le passage de l'État-nation à l'État-réseau, indépendamment du fait qu'il soit touché au niveau de la crise sur son propre sol national dans la reproduction des rapports sociaux en tant qu'État bien précis comme l'État français, mais aussi dans la mesure où la mondialisation et le processus de globalisation allaient changer complètement son intervention dans le niveau supérieur qui est pour nous organisé sous forme de réseaux de puissance. Et dans ces réseaux de puissance qui regroupent les États dominants, les firmes multinationales, les grandes banques internationales, les grandes associations, si l'ONU, etc., mais aussi le FMI, la Banque mondiale, certains grands syndicats, etc., tout ça c'est un ensemble de réseaux de puissance qui chapeautent un petit peu l'ensemble, qui ont chapeauté l'ensemble de la révolution du capital. Et dans cette structure-là, c'est effectivement un réseau de puissance qui s'exprime dans des réunions, dans les G7, G20, etc., et qui regroupe des puissances très très différentes, mais qui, d'une certaine façon, tout en étant en tension, collaborent. Donc en fait, le passage de l'État-nation à l'État-réseau, il n'est compréhensible que si on le voit aussi à un niveau mondial, à un niveau général, et non pas simplement au niveau territorial. Et donc sans arrêt, et à la différence du schéma brodélien du XVIe siècle, par exemple, ou du XVIIe siècle, c'est qu'il y a une articulation entre les différents niveaux. Que ce soit au niveau territorial, qu'on appelle le niveau 2, ou au niveau de l'hypercapitalisme du sommet, ou le niveau 3 informel, qui correspond plus à tout ce secteur un petit peu de petite entreprise, ou plus ou moins informel, tout ça est articulé d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est pas séparé, c'est des niveaux hiérarchisés finalement, et c'est comme ça qu'on peut comprendre le fait qu'il y ait ce qu'on appelle des problèmes de souveraineté, des choses comme ça qui repointent tout souverainisme, qui repointent leur nez. C'est parce que cette articulation, elle est en tension et qu'elle pose, elle est pas évidente quoi.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez encore la suite de l'entretien avec Jacques Weinstein, auteur des relevés de notes en temps de crise sanitaire, que vous pouvez consulter sur le blog blog.temps-critique.net. Jacques, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Temps Critique, de cette revue, dans quelles circonstances elle est née et qu'est-ce qu'elle est devenue au fil des années ?
Oui, alors l'origine de Temps Critique, bon, c'est une origine un peu compliquée parce que c'est venu de différents horizons. En fait, c'est parti d'un débat qui avait lieu à la librairie Publico. Enfin, disons que il y avait eu déjà des prémices avec des discussions, des échanges avec un certain nombre de personnes, mais ça s'est cristallisé pendant ce débat où je présentais mon premier bouquin « Individu, révolte et terrorisme ». Steiner et Louis Debré présentaient leur bouquin sur la fraction armée rouge.
C'était en quelle année, Jacques, pour nous ?
En 1987. Un débat qui était organisé par Jean-Marc Reynaud, très bien organisé d'ailleurs, avec une pagination importante dans le Monde Libertaire pour présenter les bouquins. et un public très important qui n'a rien à voir avec le public d'aujourd'hui, mais enfin en général, mais bon, une grosse assemblée. Puis donc quelques Italiens aussi. Donc par rapport à cette question de la lutte armée, qui de toute façon faisait encore débat à cette époque-là, y compris dans le milieu libertaire, plutôt hostile, lutte armée. Voilà, et donc on a continué à échanger entre groupes italiens, allemands et un peu français sur la nécessité, donc dépassant largement cette question de la lutte armée, la nécessité de faire un bilan, donc pas simplement de la lutte armée, ce qu'on en pensait, mais un bilan des 20 ans précédents, puisque en 87, bon, 67, 87, pour différentes raisons, il s'était passé quand même beaucoup de choses pendant ces 20 années, et une remise en question pour ces différents groupes dans différents pays. Nécessité de faire un bilan, et on s'était aperçu par des discussions, des échanges épistolaires, ces échanges, enfin que les gens étaient assez isolés, c'est-à-dire que ça se faisait par ville. Par exemple, en Allemagne, c'est Freiburg et Berlin, plus quelques petites villes de la Ruhr. En Italie, bon, c'était Turin, éventuellement la Sicile, plus un ou deux autres endroits, mais ça restait très très épars. En France, Lyon, Montpellier, et toujours un petit peu Paris, mais... Et donc tout ça a convergé vers un projet de revue avec l'idée que donc ce bilan devait partir du constat quand même de tout ce qu'on considérait quand même comme une défaite des dernières révoltes de 67 à 78, qui pouvait avoir un côté positif, mais en même temps dont il fallait tirer un peu les leçons de cette défaite. Et de la défaite, en quelque sorte aussi, qui allait avec, finalement. C'est-à-dire que c'était pas la défaite que du mouvement, c'était aussi la défaite des théories de ce mouvement qui n'avait pas été finalement à la hauteur. Donc, c'était pas simplement dire les mouvements ont été battus, etc., mais essayer de voir ce que dans la théorie, et particulièrement dans ce qu'on appelait à l'époque la théorie du prolétariat, ce qui collait pas. Et puis, d'une manière plus générale, peut-être aussi, mais ça s'est fait petit à petit, surtout dans le temps critique, ce qui n'avait pas dans la théorie communiste tout court. Donc ça, c'est le cadre général. Donc c'était pas du tout l'idée d'une revue qui aurait une ligne politique, mais plutôt d'une revue qui essayerait de repartir d'un niveau moins ambitieux qu'on jugeait comme étant pas tellement le niveau théorique, mais le niveau de la critique. C'est-à-dire essayer de voir quelles avaient été les transformations du capitalisme, les transformations des luttes sociales et politiques, et de repartir d'un niveau, disons, un petit peu plus basique, essayer de comprendre ce qui nous était arrivé, plutôt que de rattaquer une sorte de ligne ou de programme avec une perspective claire. Et concrètement, bon, ça a donné un premier numéro sur l'Allemagne, et le premier numéro est paru quelques semaines après l'écroulement du mur de Berlin. Donc il a été en grande partie rédigé sous l'autorité, entre guillemets, des Allemands, parce que ils étaient assez obsédés par cette question de la réunification et de ce que ça pouvait entraîner par rapport à eux, leur antinationalisme basique et l'apport qu'ils avaient de cette réunification. Mais après, c'était beaucoup plus large que ça, mais on a commencé à se préoccuper aussi à ce moment-là de l'État-nation, puisque eux, ça leur posait problème de ce point de vue-là, de considérer l'Allemagne qui n'était plus un État-nation. Et nous, connaissions déjà les débuts de la crise, ce qu'on appelait la crise de l'État-nation, qu'on a abordée dans le numéro 2, si tu veux, si vous voulez, ça convergeait de ce côté-là, sans parler du fait de l'État italien, qui s'était complètement, quelque sorte, en tant qu'État politique, qui s'était quasiment évanoui pendant les 10 années de plomb, puis ensuite, par la sorte de prise en main de la justice, qui avait pratiquement à elle seule liquidé non seulement la lutte armée, mais aussi les partis politiques, avec l'opération Manipulite. Et donc tout ça faisait des sujets de discussion Et on a continué comme ça jusqu'à la guerre du Golfe, c'est-à-dire au numéro 3, je crois, qui a été fait en commun, mais plutôt sous l'autorité des Italiens, et en deux langues, par rapport à ce qu'était la guerre du Golfe, le nouvel ordre mondial, bon, ce que ça signifiait. Voilà, donc ça c'est le point de départ, puis après l'expérience internationale s'est un peu arrêtée, c'est-à-dire que les Allemands ont continué à travailler avec nous, les Italiens ont continué à travailler avec nous, mais en étant dans le temps critique, mais l'ambition déjà d'être une revue bon, interpays, etc., et de langue commune, enfin faisant des numéros communs, était trop difficile à mettre en place et trop artificiel finalement. Et donc après, on a continué avec quelques traductions, des choses comme ça, dans différentes langues. Mais on sans critique, est redevenu une revue, disons, française, entre guillemets.
Et produite par des gens de différentes villes aussi.
Ah oui, donc avec des gens, surtout à Paris, Montpellier et Lyon. Mmh. Essentiellement, qui étaient les trois centres, même si le centre parisien était surtout mené par un Allemand. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et bon. Auxquels participaient à l'époque des gens comme Einsteiner qui venaient d'un autre milieu qui était plus lié à l'autonomie. Peut-être un mot là-dessus, hein, on était tous issus de milieux extrêmement différents. Les Allemands étaient plutôt influencés par l'école de Francfort et disons peu militants, très critiques du militantisme même. Les Italiens étaient plutôt... comme tous les Italiens, ils étaient mouillés dans la lutte armée, qu'ils le veuillent ou non, même s'ils faisaient pas partie des groupes de lutte armée. Et les Français, donc plutôt autonomes, disons, au niveau parisien, disons 68ards au niveau lyonnais, mais avec une formation un peu ultra-gauche. Autogestion d'avant 68 pour Montpellier. Donc quelque chose d'assez faisant un peu, enfin bon, et quand je dis ultra-gauche, moi c'est conseilliste, mais aussi avec l'influence d'invariance et du bordiguisme et tout, c'est-à-dire un truc qui recouvrait, justement qui recouvrait un ensemble de choses, mais en étant satisfait de rien, parce que justement tous ces 20 ans avaient, même si on pouvait tirer des éléments de toutes ces théories, plus rien ne collait, ne semblait, pour nous, semblait coller à la description. On en voyait une utilité très marginale, finalement, bien sûr qu'on continuait à utiliser essentiellement Marx, qui était quand même le creuset commun, peut-être, de l'ensemble des gens de la revue, peut-être la seule référence commune. Disons véritable, avec peut-être un peu d'école de Francfort, type Adorno, mais on utilisait encore Marx. Et puis, même au début, le rapport à l'opéraïsme était relativement critique. On n'a pas été véritablement. Nos rapports avec les opéraïstes sont venus après, et aussi avec les opéraïstes italiens en exil. Mais les Italiens avec qui on était en rapport étaient plutôt ce qu'on appellerait insurrectionniste, qu'opéraïste. Donc on n'avait pas de rapport non plus, même avec cette théorie qu'on a beaucoup travaillée après et qu'on trouve intéressante. Oui. Mais elle aussi avait ses faiblesses et voilà quoi. Ça, on restait toujours dans le même truc de ne pas avoir de recettes, de ne pas avoir pensé à qui on quitte.
Mais vous avez quand même, en fait, au fil du temps, vous avez quand même construit tout un ensemble de concepts, et d'outils d'analyse qui vous sont quand même assez spécifiques.
Oui, mais c'était pas prévu au départ.
C'était pas prévu, mais vous avez quand même tiré votre...
tel que ça s'est passé en 89, on pensait, comme pas mal de gens, je pense, on pensait que la fin du stalinisme, pays de l'Est, etc., le recul du maoïsme, enfin bon, des choses comme ça, allait être un bouchon qui sortait et qui allait permettre de clarifier un certain nombre de choses, et aussi que les gens puissent s'emparer plus peut-être de choses actuelles, que ça dégage de tous ces conflits entre l'appréciation du RSS, l'appréciation trotskiste, l'appréciation conseilliste, l'appréciation bordiliste, tout en référence à l'URSS, etc. On pensait que ça tomberait et que donc on se peut-être qu'on se recentrerait sur des trucs moins historiques et plus à même de comprendre ce qui arrivait et ce qui nous arrivait, et que donc la revue pourrait être vendue plus ouvertement. Et c'est vrai qu'au début, on a eu des chiffres de vente sur Paris extrêmement importants, parce qu'on était aussi diffusé même à la FNAC et dans les grandes librairies parisiennes. Et donc, petit à petit, ce public un petit peu large, au sens où on vendait 1000 exemplaires, bon, ce qui pour une revue est quand même pas mal, vu le nombre qu'on était, ce truc s'est avéré faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de reprise, que la masse des gens pouvant écrire, pouvant donner un certain nombre de luttes, etc., ils ne sont pas plus extraits que dans la période des années antérieures. Et que très rapidement, on s'est retrouvé un petit peu entre nous, en tant que comme un groupe, quoi. Et forcément, on a resserré aussi les discussions entre nous. Et c'est là que s'est élaboré petit à petit un cursus en critique qui commence avec la critique de l'État-nation, d'abord la reconnaissance de sa crise, puis la critique de l'État-nation, la question du travail qui a suivi tout de suite après, avec notre position de la valeur sans le travail, qui n'a pas toujours été bien comprise. C'est surtout la notion centrale de révolution du capital qui a, par la valeur sans le travail, c'est celle qui symbolise le plus le cursus. Ce qu'on dit sur la critique de l'État-nation, ce qu'on dit sur le travail, ce qu'on dit sur la révolution du capital, c'est-à-dire que il n'y a pas eu révolution prolétarienne, mais il n'y a pas eu contre-révolution, mais il y a eu révolution du capital. Et puis, dernier truc sur l'articulation entre les niveaux, État réseau et État nation. Voilà, c'est un peu ça qui structure le cursus actuel et qui fait que sans avoir une ligne politique, un certain nombre de points référence de la revue.
L'émission Vive la Sociale est terminée. Vous pourrez la réécouter lundi prochain à 7h sur cette antenne ou plus tard, comme toutes les précédentes, en podcast sur le site vivelasociale.org. À partir du 16 juillet et jusqu'en septembre, nous vous proposerons une série de rediffusions. Et dans l'immédiat, nous cédons l'antenne à Zoom Écologie. Bon été à tous.